Dernier sujet des Okapi Action aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la nature sur les bords du lac Tanganyika, comprendre l'eau, la vie des espèces qui y vivent, les transformations qui s'y déroulent, les activités qui s'y développent, disons des études au point de vue chimique, biologique et hydraulique, voire économique. C'est ce que font chaque jour une quinzaine de scientifiques au centre en hydrobiologie de Ouvira. Nous sommes au Sud-Kivu, dans la plaine de la Ruzizi. Ce centre est unique en son genre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Bukavu notre consoeur Sophie Badera. Sophie Badera, bonjour.
Bonjour Walter et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez séjourné pendant un temps à Ouvira et vous avez visité cette merveille scientifique unique au Sud-Kivu. Pouvez-vous nous décrire ce centre?
Voilà, la discussion peut venir un peu plus tard, mais je peux parler un peu de ce centre. Alors, le Centre de recherche en microbiologie a été créé en 1950, inauguré pour la première fois par l'Institut de recherche scientifique en Afrique centrale, IRSAC. Sa première recherche en 1958 dans le lac Tanganyika a été lancée sur une espèce de poisson communément appelée Ndakala ici chez nous. Et ses premières études étaient de voir comment transplanter cette espèce du lac Tanganyika au lac Kivu. Une réussite car ce même poisson est pêché aujourd'hui jusque vers Goma et Gisenyi. Alors, je vais vous faire rapidement une description du centre, Walter, comme tu l'as demandé. Il est situé dans le quartier Kimanga, avenue des Pionniers. Il a la forme carrée et comporte deux niveaux. Au premier niveau, il y a tous les bureaux administratifs de recherche, 20 en tout. Le deuxième niveau a une grande salle d'exposition, une grande bibliothèque très riche, des laboratoires et des bureaux de directeurs et de chercheurs. Derrière le bâtiment se trouvent les appartements où logent tous les cadres et les visiteurs, dont les étudiants en stage. Voilà, Walter.
Merci pour cette carte postale, mais revenons sur la recherche. À part le poisson Ndakala, qui est très bon, soit dit en passant, n'y a-t-il pas d'autres poissons en étude dans ce centre?
Oui, en effet, Walter, d'autres espèces sont ou ont été étudiées. Le lac Tanganyika regorge de plus de 300 espèces de poissons. Selon les chercheurs, seulement 50 espèces sont exploitées et consommées par l'homme. Les 250 autres sont de petite taille et non consommées par l'homme, mais très convoitées par les touristes et pour leurs photos souvenirs. Nous avons eu la chance de visiter leur salle d'aquarium et là, on voit une variété de poissons et autres espèces aquatiques. Alors, visitons ensemble, Walter, cette salle d'aquarium.
Moi, c'est Constantin Amundala Chekani. Je suis un chercheur au niveau du département de biologie et responsable de la section zoologique qui s'occupe de la salle d'aquarium et de la piscine où se trouve le crocodile. Dans l'aquarium, nous avons des poissons qui viennent du lac Tanganyika, parce que nous sommes juste à côté du lac ici. Pour que l'aquarium fonctionne, il faut qu'on y mette d'abord des substrats, c'est-à-dire pierres, roches et sable, comme ce qui se trouve dans le lac, pour que le poisson puisse s'habituer à ce nouveau milieu-là. Et en plus de cela, nous devons aérer l'eau, parce que les poissons respirent aussi. C'est pourquoi nous avons et les pompes à air et les filtres. Les filtres ont la spécificité d'aspirer de l'eau, de retenir tout ce qu'il y a comme saleté et de faire revenir de l'eau qui est propre, qui n'a plus de saleté. Et en même temps, ça aère l'eau.
Les poissons que vous gardez ici, rayés, comme le zèbre, pourquoi ce sont seulement ces poissons que vous gardez?
Bon, ce sont des poissons beaux à voir d'abord, et ce sont des poissons qui ont la spécificité de développer une bosse à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle les Siphotilapia frontosa. Bon, dans notre aquarium ici, nous avons encore un poisson électrique, Malapeus electricus, un poisson électrique. Si vous le touchez, il vous fait une décharge électrique et ça vous repousse et vous le laissez partir. C'est l'aptitude pour ce poisson à se procurer à manger parce qu'il pèse d'abord. Il n'a pas le temps de poursuivre et de chasser facilement. Alors il entre dans une bande de poissons, il décharge quelques poissons et puis il les mange. Parce que c'est un poisson carnivore.
J'aurais bien voulu être à côté de vous, Sophie Badera. Merci beaucoup pour cette visite guidée grâce à la magie de la radio. Mais vous nous avez dit tantôt que le centre fait aussi des recherches en hydrobiologie, Sophie Badera.
Oui, Walter, en effet, pour cela, le centre comprend pour ses recherches trois laboratoires en biologie, en chimie de pêche et en économie de pêche. Au deuxième niveau du bâtiment où se trouvent ces laboratoires, nous avons commencé par la biologie. Je vous laisse plutôt avec le chef de ce département, Kamalebo Mukangilwa, qui nous explique son fonctionnement.
Le département de biologie se compose de trois sections. La section zoologie, la section botanique et la section microbiologie. Là, ici, nous avons quelques appareils que nous utilisons dans le cadre de l'étude des poissons, des phytoplanctons, des zooplanctons, et j'en passe. Nous pouvons commencer par le premier appareil. Voilà, ici, nous avons l'étude. C'est un appareil à les voyants. Pour quelqu'un qui ne le connaît pas, il peut le confondre avec le frigo. Mais ça sert à sécher. Il y a des produits que nous devons étudier en état sec. C'est-à-dire, nous prenons par exemple les pois secs de poisson, les pois secs de telle ou telle espèce. Alors, on doit sécher ici. Et on peut aussi utiliser ça quand on fait la culture des microbes. Ici, comme nous faisons l'hydrobiologie, on trouve les microbes aussi bien dans l'eau, dans les poissons, que dans les autres êtres vivants aquatiques.
Ok.
Et nous avons quelques balances électroniques que nous utilisons pour peser les produits. Lorsque nous voulons, par exemple, préparer le formol, lorsqu'on fait l'étude de gonades, c'est-à-dire des appareils digestifs des poissons, on utilise ces balances ici parce qu'elles sont très sensibles. Ici, nous avons une série de microscopes. En commençant par les microscopes de terrain qu'on n'utilise pas au labo. Nous avons ici le microscope de dissection pour voir la maturité sexuelle des spécimens.
Voilà, nous sommes à pleine visite guidée, hein, à plein laboratoire. Nous étions au labo de la biologie. Mais maintenant, Sophie Badera, selon ce qu'on s'est convenu, c'est la chimie des pêches que nous allons découvrir. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire pourquoi il parle de chimie de pêche?
Voilà, pourquoi on appelle le laboratoire la chimie de pêche. Walter, alors le chercheur Willy Mbemba que nous avons rencontré dans ce laboratoire nous a expliqué que sa tâche consistait essentiellement à étudier la nature de l'eau où vivent les poissons et ces poissons sont pêchés par la population et c'est ça la réponse. Écoutons-le, donne-nous plutôt des précisions, Walter.
Ici, nous sommes au labo chimie, nous faisons les analyses d'eau, les analyses chimiques d'eau. Pour déterminer soit la qualité d'eau, la pollution, ou il y a ce qu'on appelle aussi la limnologie. Donc, l'état de l'eau dans le lac, les mouvements, comment ça peut permettre le développement de certains micro-organismes et jusqu'au niveau des poissons dans le lac. Ici, nous avons les matériels de labo, comme d'habitude, il y a des pipettes, il y a des birettes. Et puis, de l'autre côté, c'est là où il y a quelques matériels qui sont un peu spécifiques, qu'on utilise souvent dans notre recherche dans ce coin-ci. Vous voyez, ici, il y a tous les produits chimiques que nous utilisons pour faire nos analyses. Ici, nous avons les distillateurs. Donc, avec ça, nous fabriquons l'eau distillée nous-mêmes. Ici, nous avons notre équipe de recherche sur terrain. Avec ça, nous sommes à mesure de faire certaines analyses directement sur le terrain. Par exemple, l'oxygène dissous qui se trouve dans l'eau. On prend les données sur le champ, vous mesurez, ça vous donne la quantité qui se trouve dans l'eau directement.
Quand vous parlez de la quantité, c'est que c'est la quantité d'oxygène qui se trouve dans l'eau ou bien?
Oui, 1 mg par litre, la quantité d'oxygène 1 mg par litre dans l'eau ou en termes de pourcentage.
Et notre lac Tanganyika a une grande quantité d'oxygène sans doute?
L'oxygène dissous, oui, c'est en tout cas, nous avons une bonne quantité, c'est vraiment élevé. Mais le lac a trois couches.
Mm-hmm. Et les poissons restent à quel niveau?
Le poisson reste souvent dans la partie superficielle.
Et vos recherches ne se limitent qu'à cette première partie?
Non, nos recherches vont très loin.
Voilà, on vient d'entendre ce spécialiste expliquer. On va peut-être découvrir le dernier laboratoire, Sophie Badera. Vous avez parlé de l'économie des pêches.
Oui, Walter, pour l'économie de pêche, vous comprenez là qu'en plus d'étudier la nature de l'eau et des poissons qui s'y trouvent, il faut aussi étudier ce que cette eau rapporte comme matière première, étudier également la vie des pêcheurs, ce qu'ils retirent de l'eau. Gérard Kitungano est chercheur et chef du département de l'économie de pêche. Il donne des éclaircissements pour une meilleure compréhension.
Le département de l'économie des pêches, il est d'abord subdivisé en deux sections. Il y a l'une qui traite de sociologie des pêches et l'autre qui traite de statistiques économie des pêches. Sur la sociologie des pêches, nous étudions généralement la vie des pêcheurs. Et au niveau de la statistique, là, nous essayons un peu de quantifier la capture, de quantifier les engins qui sont utilisés pour capturer le poisson, de quantifier aussi le pêcheur. Au niveau d'économie des pêches, on essaie un peu d'étudier la rentabilité des investissements ou la rentabilité des unités de pêche qui évoluent sur la côte congolaise.
Si on parlerait un peu de la rentabilité de pêche, vous avez une idée de la quantité qu'on pêche régulièrement dans le lac Tanganyika?
Ici, pratiquement pour le moment, nous avons un peu de difficultés à ce niveau-là. Pourquoi? Puisque ça fait très longtemps que les activités sont vraiment au ralenti.
Mais alors, comment est-ce que vous assistez ces pêcheurs?
Bon, pour le moment, la façon d'assister les pêcheurs, nous essayons un peu, évidemment, de leur prodiguer certains conseils, surtout sur l'aménagement de la pêche. Essayer un peu peut-être de leur montrer l'impact négatif de tel ou tel autre enjeu sur l'environnement aquatique, autrement dit sur les stocks de poissons. Nous nous butons souvent à certains obstacles. Ils nous disent que bon, vous nous proposez le filet de telle maille. Mais pourquoi ne pas aussi disponibiliser, par exemple, ces filets sur le marché et aussi à un prix adapté?
Que vous n'avez pas de filets à leur proposer, quoi.
Il y a des propositions au niveau des mailles, mais nous n'avons pas de moyens pour, du moins, disponibiliser ces filets-là.
Autant de problèmes. Peut-être une dernière question ou un dernier aspect de ce centre en hydrobiologie de Ovira. Sophie Badera, vous nous avez dit qu'il y a des étudiants qui viennent en stage dans ce centre-là.
Oui, Walter, chaque année, le centre universitaire de Bukavu, CUB, envoie 5 à 7 étudiants qui ont l'hydrobiologie dans leur programme pour faire un stage. Ces étudiants apprennent à faire des plongées, à étudier la vie du poisson dans son milieu. Alors, une étudiante finaliste que j'ai rencontrée en train de se préparer à faire de la plongée était très excitée à l'idée d'aller contempler ces poissons. Elle m'a livré plus tard qu'à la fin de ses études, elle compte faire de la pisciculture.
Lorsqu'on parle plongée, on pense tout de suite équipement. Est-ce qu'ils sont suffisamment équipés pour faire ces types de plongées scientifiques et notamment pour les stagiaires aussi?
Malheureusement pas, Walter. La salle d'équipement que nous avons visitée ne comporte que 10 combinaisons pour souvent une quinzaine de candidats à la plongée. 6 jaquettes, 6 détendeurs, 9 bouteilles d'oxygène renouvelables par compresseur, quelques palettes et bolets et bottes, quelques masques et une seule pirogue motorisée. Mais malgré tout, ces stagiaires sont bien équipés avant de plonger et sont ainsi mieux protégés contre d'éventuels accidents. Voilà, Walter, ce que nous pouvons retenir sur ce centre. Les autres explications, vous allez les avoir avec le directeur adjoint du centre, Moulimbo Nsibula. Il est en même temps le directeur scientifique du centre et a plus de 20 ans d'expérience dans ce centre.
Voilà, merci beaucoup. On va le retrouver dans quelques instants et surtout bonne chance à tous ces scientifiques qui nous suivent probablement à Ovira parce que nous y sommes captés en modulation des fréquences aussi. Bonne journée à Bukavu, Badera.
Bonne journée aussi, Walter. Au revoir.
Ciao, ciao.
À Bukavu sur 95,3.
Nous allons avoir dans quelques instants le directeur adjoint du centre en hydrobiologie Ovira, M. Moulindoa, qui est aussi le directeur scientifique de ce centre-là, pour avoir quelques précisions sur tous les pistes de sortie par rapport aux difficultés. Et puis, pourquoi, ma foi, ce centre n'est pas très connu, hein. On est en train d'apprendre des choses qui se font chez nous, qu'on voit seulement à la télévision, dans d'autres pays, alors que chez nous, ça se passe aussi. Hein? Jean-Claude Siala, des Congolais qui plongent dans l'eau pour aller étudier les poissons, on pensait que c'était l'apanage des autres. Alors, il faut qu'on me dise de qui s'agit. C'est le directeur général? Monsieur le directeur général du centre. Monsieur Chombo Moudero Avenant, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur général de ce centre en hydrobiologie de Ovira. Dites-nous. Est-ce qu'on peut couper la radio au récepteur qui est à côté de vous parce qu'elle fait des effets retour, ça nous fait perdre des secondes précieuses. Si on les coupe, ça
D'accord,
sera...
D'accord, merci, c'est déjà fait.
Voilà, très bien. Alors, ce centre, d'abord, on est en train de le découvrir. Pourquoi il n'est pas très connu par la majorité des Congolais?
Ce centre, peut-être, n'est pas très connu par la majorité des Congolais parce que nous n'avons pas l'occasion souvent de nous faire entendre, et surtout que nous fonctionnons seulement presque en circuit fermé à cause des possibilités, des moyens qui devaient nous permettre de le faire. Mm. Nous travaillons actuellement sur le lac Tanganyika et sur le lac Kivu, alors qu'en principe, on devait travailler sur tous les écosystèmes aquatiques de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans le fleuve, dans le lac Tanganyika, Kivu, Édouard Albert, Tumba, Banguelo, ainsi que tous les écosystèmes qui se trouvent même à Matadi et dans les autres rivières du Congo.
Mais pour... Là, oui, monsieur le directeur, pourquoi est-ce que vous êtes seulement cantonné au lac Kivu et au lac Tanganyika? Qu'est-ce qui manque?
Ce qui manque, ce sont des moyens que le gouvernement devait mettre à notre disposition pour créer des stations, justement, afin de pouvoir suivre l'état des écosystèmes aquatiques dans d'autres lieux du pays. Ce sont les moyens qui nous font défaut.
Oui, et ça fait au moins 10 ans que vous êtes dans ce centre-là. Qu'est-ce qui est original à ce centre? Quelle est la merveille naturelle que vous pouvez sortir? Parce que le monde entier nous écoute maintenant.
Oui, la merveille, c'est que au niveau du centre, ce qui a été réalisé vraiment, c'était dans les années 1958-60, le centre ici a transféré ou transplanté un poisson du lac Tanganyika au lac Kivu. C'est l'Endaka là que nous connaissons au lac Kivu actuellement. Et actuellement, il est pêché et il est exploité par la population. Ça, c'est un point qui a été fait dans le temps. Mais actuellement, nous essayons de faire l'inventaire des poissons qui existent autour du lac Tanganyika et Kivu. Et nous avons découvert récemment certaines espèces, de nouvelles espèces de poissons. Et ce qui fait en fait l'originalité aussi de nos recherches, c'est que nous travaillons pratiquement sur des espèces endémiques. Autrement dit, des espèces qu'on trouve ici au lac Tanganyika, dont plus de 200 espèces, des espèces cyclidées qu'on appelle les espèces cyclidées en français.
Mmh. Alors, comment faire en sorte que toutes ces espèces de poissons soient bénéfiques pour les populations? Le côté économique, au-delà du tourisme et de la recherche scientifique, il y a aussi le fait que les gens doivent se nourrir. Pourtant, on meurt de faim. On mange des poissons qu'on importe, des surgelés qui viennent d'ailleurs.
Exact. Vous avez raison. Ces poissons endémiques ont un double rôle. Donc, si les plans scientifiques peuvent être développés, disons, être étudiés par des chercheurs étrangers ainsi que les nationaux, afin de permettre à la population de pouvoir connaître quelles sont les merveilles, la façon dont ils vivent, comment ils se reproduisent, etc. Et c'est par ces études de base qu'on peut maintenant découvrir les espèces qui peuvent être exploitées économiquement, c'est-à-dire les espèces de grande fécondité et qu'on peut transplanter dans les piscicultures ou dans les lacs où ils sont, donc dans les lacs qui sont pauvres. C'est ça donc qui peut nous permettre de pouvoir faire évoluer la science au niveau de notre centre de recherche.
Notre espoir est que prochainement nous ayons un peu plus de temps pour parler de ce que vous faites dans ce centre en hydrobiologie de Uvira. Monsieur Chongo Mudero Avenant, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Radio Okapi.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.
Merci, plaisir partagé par nous-mêmes. Et Okapi Action s'achève. Merci d'avoir été fidèle. Jean-Claude était à la mise en onde. Judy Kachama a fait la régie. Walter Molondi citait au micro. À demain pour une édition spéciale sur les femmes.